Vous écoutez Radio France Internationale, il est 1h ici à Paris, minuit en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, plus d'électricité, plus de carburant et bientôt plus d'eau douce. La situation redevient critique dans la bande de Gaza. L'ONU dénonce la décision d'Israël de couper l'approvisionnement en électricité. Premier bilan des affrontements survenus en Syrie ces derniers jours. Plus de 1500 morts. Les deux tiers étaient des civils. Comment comprendre cette explosion de violence? Analyse avec un spécialiste dans ce journal. C'était une journée de bombardement entre l'Ukraine et la Russie, une intensification des frappes aériennes au moment où Kiev s'apprête à présenter un plan de cessez-le-feu partiel à Washington. En Allemagne, le futur chancelier à l'épreuve du Parlement pour faire passer son méga-plan d'investissement. Friedrich Merz a besoin du soutien des Verts et ce n'est pas gagné d'avance. Et Tesla, la voiture verte dans le rouge. La compagnie d'Elon Musk a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis décembre. Ce lundi encore, son action chutait de plus de 15%.
RFI.
La situation humanitaire à Gaza atteint un point critique une nouvelle fois. Israël a coupé l'approvisionnement en électricité dans l'enclave palestinienne. Depuis une semaine, le carburant aussi est bloqué à la frontière. Une situation de pénurie qui inquiète fortement les Nations Unies. Le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, appelle la communauté internationale à réagir. À Genève, les précisions de Jérémy Lanche.
Sans électricité et avec le carburant bloqué, les dernières usines de dessalement d'eau, les centres de santé, les boulangeries de Gaza risquent de fermer, alerte le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. La principale usine de dessalement fournissait de l'eau à 600 000 personnes à Gaza, rappelle Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens.
L'électricité n'a été rétablie qu'il y a quelques jours. Jusqu'à maintenant, les gens utilisaient plutôt des générateurs au diesel pour en avoir. L'impact d'un blocus de l'aide alimentaire m'inquiète beaucoup plus, ou si l'eau était coupée. Et de fait, il n'y a plus de nourriture ni d'essence qui rentre à Gaza désormais.
Et en parallèle, Tel Aviv tente à tout prix de convaincre des agences de l'ONU de prendre le relais de l'UNRWA, officiellement banni par Israël. Une tentative vaine, explique Philippe Lazzarini.
D'autres agences peuvent faire rentrer des camions d'aide à Gaza, mais la vraie question, c'est qui va fournir des soins médicaux, de l'éducation. Et si je nous compare, les autres agences de l'ONU ne pèsent pas plus de 5% de notre présence.
Et une présence réduite comme peau de chagrin à cause des lois anti-UNRWA passées au Parlement israélien au début de l'année. Depuis la fin janvier, l'agence ne peut plus compter que sur son personnel palestinien, encore plus soumis aux intimidations et aux menaces de l'armée israélienne, d'après Philippe Lazzarini. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
Israël qui a mené des frappes sur Gaza malgré un cessez-le-feu fragile avec le mouvement islamiste Hamas. L'armée dit avoir visé des combattants qui tentaient d'enfouir des engins explosifs dans le sol. L'État hébreu a aussi bombardé le sud de la Syrie selon plusieurs sources locales. L'Observatoire syrien des droits de l'homme dénombre 17 frappes, principalement sur des zones militaires de l'ancienne armée syrienne. Un poste d'observation et des chars auraient été touchés. La Syrie, où l'heure est au bilan après que Damas ait annoncé la fin de son opération militaire dans l'ouest du pays, opération de répression contre des fidèles de l'ancien régime, on compte au moins 1500 morts, dont plus de 1000 civils. Parmi les civils massacrés, une grande majorité d'Alaouites, l'ethnie de Bachar al-Assad, 1500 morts, donc bilan encore provisoire de ce qui ressemble à un premier échec de la nouvelle Syrie qui a jusqu'ici privilégié les sujets économiques au sujet de la justice. Justice qui a été laissée aux milices les plus radicales, analyse le chercheur spécialiste des Alaouites, Ariad Ranem, invité d'Anne Kantner dans RFI Midi.
Le nouveau pouvoir n'a pas su construire un moment de conciliation nationale en dehors de cette unique journée de dialogue national qu'il a organisée en février. Ça ne suffit évidemment pas à revenir sur les vérités, les responsabilités des crimes de 50 ans de dictature, 14 ans de guerre civile. Et visiblement, le nouveau pouvoir a laissé libre cours à une vision de la justice transitionnelle par le bas, et notamment par les factions les plus radicalisées, ce qui explique que ces dernières semaines et mois, lors de nombreuses opérations qui devaient en premier lieu lieu pour suivre, à juste titre, les criminels du régime passé. Beaucoup d'abus ont été commis, beaucoup d'arbitraire a été observé, et une logique malheureusement confessionnelle a émergé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est malheureusement sur le terrain moins dans une lutte contre l'ancien régime, mais plus sur des lignes alaouites sunnites.
Et le nouveau pouvoir de Damas qui annonce un accord avec les forces kurdes pour intégrer toutes les institutions civiles et militaires de la minorité au sein de l'État syrien. Cette entente garantit l'ensemble des droits constitutionnels à la communauté kurde. En contrepartie, les régions contrôlées par les Kurdes dans le nord-est du pays reviennent sous l'autorité de Damas. Depuis le début de la guerre en 2011, le Kurdistan syrien se gérait de manière autonome. Échange de frappes entre l'Ukraine et la Russie ce lundi. Selon les autorités ukrainiennes, Kiev aurait été la cible de bombardements durant la soirée. Les systèmes de défense anti-aérien sont entrés en action pour repousser l'attaque. Plus tôt dans la journée, c'était le sol russe qui était bombardé. Au moins 3 personnes sont mortes dans des frappes ukrainiennes menées contre un village de la région de Koursk. Ces échanges de tirs sont survenus la veille d'un sommet important entre le président ukrainien et le chef de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite. Volodymyr Zelensky devrait proposer un cessez-le-feu dans les airs et sur les mers mardi, une trêve partielle vue d'un bon œil par Washington. En Allemagne, c'est un premier défi parlementaire de taille pour le futur chancelier Friedrich Merz. Il a présenté la semaine dernière un plan d'investissement géant négocié avec ses alliés sociaux-démocrates. Il prévoit plusieurs centaines de milliards de dépenses supplémentaires pour l'armée allemande et pour les infrastructures du pays. Mais il faut pour cela réformer la Constitution, ce qui requiert une majorité qualifiée des 2/3 et donc l'approbation des Verts. Mais les écologistes allemands refusent d'approuver ces textes, la correspondance à Berlin de Pascal Thibault.
Sur la forme, les écologistes n'apprécient pas qu'on les ait mis devant le fait accompli sans discuter avec eux. Les chrétiens démocrates ont par ailleurs tiré à boulet rouge sur les Verts durant la campagne et ces derniers jouent la saucisse vexée, pour utiliser une expression allemande fleurie. Le président du parti parle d'un chantage. Sur le fond, les Verts allemands craignent que chrétiens et sociaux-démocrates aient opté pour le quoi qu'il en coûte pour financer leurs promesses électorales respectives et satisfaire d'abord différents groupes, agriculteurs, retraités ou automobilistes. Enfin, la quasi-absence du climat dans l'accord présent samedi provoque la colère des écologistes. Et maintenant, les Verts jouent-ils un coup de poker pour arracher des compromis, notamment sur l'environnement, avant une cure dans l'opposition ? Des discussions sont prévues dès ce soir. Si elles devaient échouer, cela serait un coup dur pour Friedrich Merz. L'absence de réforme de la Constitution remettrait en cause le bazooka géant au profit de la défense et des infrastructures. Les négociations avec les sociaux-démocrates qui doivent débuter jeudi pour constituer une coalition seraient bien plus compliquées. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Roumanie, le candidat d'extrême droite Calin Gheorghescu fait appel de la décision qui lui interdit de se présenter à l'élection présidentielle prévue en mai. C'est un nouveau rebondissement dans ce feuilleton politique. Calin Gheorghescu était arrivé en tête lors du scrutin en novembre, mais le vote avait été annulé en raison de multiples irrégularités, principalement d'importants soupçons d'ingérence russe. Il comptait sur cette nouvelle élection pour briguer la présidence, mais la commission électorale a refusé de valider son dossier de candidature dimanche. La Cour constitutionnelle se réunira mardi pour étudier sa demande. Moins de 2 mois après son retour à la Maison-Blanche, l'effet Trump se ressent déjà sur l'économie. Ce week-end, le milliardaire a écarté la possibilité d'une récession, mais les bourses ont tout de même reculé ce lundi. Et dans ce paysage, une entreprise s'en tire particulièrement mal. C'est Tesla, la marque de voitures électriques d'Elon Musk. Justine Fontaine.
La valeur en bourse de Tesla a ainsi été divisée par 2 depuis décembre. Au départ, certains acteurs financiers pensaient que la proximité du milliardaire d'origine sud-africaine avec le nouveau président pourrait favoriser l'entreprise. Le cours de Tesla a donc d'abord grimpé, mais l'euphorie n'a pas duré. Les licenciements massifs ordonnés par Musk de milliers de fonctionnaires et son salut nazi ont pesé à la baisse sur les intentions d'achat de Tesla. Des appels au boycott ont été lancés, des manifestations contre la marque et son patron ont eu lieu également ces derniers jours aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, les acteurs financiers croient de moins en moins aux promesses sans cesse repoussées d'Elon Musk de parvenir rapidement à des véhicules autonomes, sans chauffeur. Et puis, ce qui inquiète surtout les marchés financiers, ce sont les ventes de la marque en chute libre, divisées par deux en janvier en Europe, idem en Chine en février par rapport à la même période l'an dernier. Enfin, Tesla met du temps à renouveler ses modèles, alors que la concurrence est de plus en plus forte sur le marché de l'électrique.
Et le cours de l'action de Tesla a encore perdu plus de 15% ce lundi à Wall Street.